Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richaud.
Ça comme
14h52, on n'arrête plus Benjamin Pitchot. À cette heure-ci, on raconte des histoires encore, et des histoires vraies. Dominique Verdaillan suit les affaires judiciaires les plus grandes depuis 25 ans pour France Télévisions, et France 2 en particulier. Romain de Bec-de-Lièvre et Alice Ramon l'ont rencontré vendredi dernier, et il évoque, puisque vous le faisiez à l'instant vous aussi, l'affaire Grégory.
Nous sommes, 33 ans après la disparition de ce jeune garçon qui disparaît alors qu'il est en train de jouer devant le domicile de ses parents et qu'on retrouve en fin de journée, pieds et mains liés dans la Vologne. Bon, avec tout ce qu'on connaît de l'affaire, les lettres de Corbeau. C'est l'exemple même du fait divers où tout le monde dérape. Évidemment, la presse, les gendarmes, les policiers, le juge, le procureur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une affaire qui est toujours ouverte. On continue de faire des actes de procédure de façon à ne pas interrompre la prescription. Mais c'est une affaire où le point final, là encore, est totalement impossible parce que ce qui pourrait sauver l'affaire Grégory, c'est la science. Après tout, évidemment, peut-être qu'avec l'ADN, on pourrait retrouver celui qui a fait les liens du petit Grégory sur les vêtements. Bon, sauf que, on le rappelle, les faits datent du 16 octobre 1984, à la fois à cette période-là, et puis ça fait partie, encore une fois, des dysfonctionnements, pour être gentil, de la justice à l'époque, on n'a pris aucune précaution avec ce qu'on appelle les pièces à conviction, et donc tout le monde les a manipulées. Donc effectivement, on a fait les expertises sur le timbre, sur les cordelettes, sur les vêtements, on n'a rien trouvé de probant, soit parce que les ADN ne sont pas complets, soit parce que, comme tout le monde y a touché, on peut retrouver évidemment l'ADN des gendarmes, du juge d'instruction, retrouver l'ADN de la mère et du père sur les affaires du petit Grégory, c'est évidemment pas une info. Donc c'est la définition même du fait divers qui n'a pas d'issue. Et puis c'est aussi évidemment le fait divers, comme après il y a eu Outreau et comme il y a d'autres affaires, qui est une catastrophe judiciaire qui secoue tellement l'institution, qu'à chaque fois on se dit qu'est-ce qu'il faut faire, parce que on avait affaire à un juge trop jeune qui sortait plus ou moins de l'École nationale de la magistrature, qui lorsque il a dit je suis nommé à Épinal dans les Vosges, on lui a dit t'as de la chance parce que là-bas il se passe jamais rien. Sauf que évidemment, il arrive là-bas et puis il se passe quelque chose qu'il a été, lui et d'autres, totalement incapables d'élucider. Comme dans d'autres affaires, la presse s'est coupée en deux, c'est-à-dire qu'elle est sortie de son rôle. Et au lieu d'être simplement dans un rôle d'observation, elle est devenue parti pris. Voilà, donc il y avait une certaine presse qui était pour la thèse Laroche et une autre qui était pour la thèse Villemain. Ça a été le dérapage avec des photos montées, évidemment aussi des vols de photos ou d'objets. Je pense que on n'a pas de leçon à donner parce que tous les médias à des degrés plus ou moins importants ont dépassé la ligne jaune. Et évidemment, quand une affaire n'est pas élucidée rapidement, la presse, déjà dès le début, elle essaye. Mais alors encore plus quand il y a une faille importante comme ça. À partir du moment où il y a une faille, la presse essaye de se substituer à la justice, en tout cas au juge. Et donc là, tout peut arriver, pas forcément le meilleur.